Avec lui, tu veux rester poigné dans le trafic. Avec lui, jamais besoin de reprise. Le but est tout le temps bon. Pour tout savoir, voici Martin Leclerc.
Bon lundi, Martin, comment vas-tu?
Bon matin, Greg. Ça va très bien. Content de te retrouver.
Ben, moi aussi, très content de te retrouver et surtout de retrouver un Martin Leclerc qui me semble à 100%.
Écoute, pas à 100, mais plus proche de 100% que je l'étais la dernière fois.
On aime ça.
Tranquillement, c'est bon. Pas vite.
Ouais. La tendance est à la hausse. Martin, là, je fais un lien boiteux qui va faire rire les gens, je l'espère. Tu es comme le Canadien.
C'est-à-dire que je renais pendant la période des fêtes?
Exactement.
Quoi?
Non, je veux dire, tu continues de t'améliorer chaque jour et t'as connu un week-end à la hausse.
Ah, que ça a été un week-end. Moi, j'ai trouvé ça très, très impressionnant. J'aime pas ça de décortiquer une saison de hockey en faisant par petites tranches, par petits matchs. Essayer de trancher une saucisse en 82 tranches, parce que tu n'apprends pas grand-chose en faisant ça. J'aime ça regarder. J'aime regarder les tendances qui se dégagent pendant une saison, puis de voir si ça peut se maintenir et de voir si on est en train de bâtir quelque chose de solide. Mais c'était un impressionnant pic de performance, ce qu'on a vu. Le Canadien, en tout cas, l'analyse que je fais de cette équipe-là, c'est que c'est une équipe qui a eu un très mauvais camp d'entraînement, qui a très, très mal commencé sa saison. C'est un des pires camps d'entraînement que j'ai vu, moi, dans les peut-être 15 dernières années pour l'équipe, pour toutes sortes de raisons. Souviens-toi, il y a eu des matchs farfelus. Il y a eu des matchs où ça jouait plus au hockey à un moment donné, que les joueurs cherchaient juste à venger des choses qui s'étaient passées sur la patinoire.
On se serait cru dans une carte de UFC ou à la lutte professionnelle, Martin.
Exactement. Puis le Canadien est sorti de ce camp-là, n'était pas prêt, a eu un très mauvais premier mois et demi de la saison. C'était épouvantable. Cette équipe-là était complètement défaite par rapport à ce qu'on avait commencé à faire la saison précédente. Mais depuis la mi-novembre, tu sais, on voit, il y a un crescendo qui est intéressant. Puis ce qu'on a vu en fin de semaine, c'était de toute beauté, comme disait ma grand-mère. Tu sais, blanchir les champions de la Coupe Stanley chez eux, je comprends que tu sais, les Panthers de la Floride ont gagné la Coupe Stanley, ont joué beaucoup de matchs dans la dernière année et demie, puis il était peut-être pas aussi fébrile qu'il le devait, qu'il aurait dû l'être en voyant arriver le Canadien, mais le Canadien a joué un match incroyablement solide, a donné 6 chances de marquer aux Panthers de la Floride dans ce match-là. Moi, c'est le jeu défensif qui m'a impressionné durant la fin de semaine. Jakub Dobesh devant le filet a été rassurant, il a été calme pour un gars qui faisait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. C'est un grand gardien athlétique qui dégage quelque chose qu'on a rarement vu de la part de Caden Primo. Et moi, il va être très difficile à déloger. Là. Ça va être difficile de lui enlever le poste d'adjoint à Montréal. Puis si on le garde à Montréal, il va falloir le faire jouer, ce jeune-là, parce qu'il est très, très bon puis il a beaucoup de promesses dans son jeu.
Certainement. Mais Martin, je te pose la question avant que tu poursuives. Parce que quand on a su que Jakub Dobesh était le gardien partant pour amorcer ce voyage-là en Floride, là, on sait, officiellement, le voyage commençait à Columbus, mais on a pu retourner à la maison à la pause des fêtes. Là. Moi, j'ai calculé, c'est-à-dire j'ai nommé la décision de Martin Saint-Louis comme étant du génie. De mettre ses troupes un peu dans le bain, là, dans l'eau chaude, en disant le gardien recrue commence le voyage. Donc ça a forcé tout le monde certainement à se retrousser les manches, à donner un effort. T'as parlé de la performance défensive du Canadien lors du match de samedi. On a répété ça dimanche. Qu'as-tu pensé de cette décision-là? Des gens disaient, c'est évident, là, Montembeau était fatigué. Ben non, habituellement, le premier match d'un voyage sur la route, surtout contre les champions de la Coupe Stanley, ça doit aller au gardien numéro 1.
Oui, mais écoute, dans un cas comme dans l'autre, tu choisis ton poison. Là. Tu joues contre les Panthers samedi ou tu joues contre le Lightning de Tampa Bay dimanche, mais j'ai vu ça comme toi aussi, le fait que ça plaçait un peu tout le monde sur le bout des pieds en disant là, on a un jeune devant le filet, puis vous êtes mieux de faire attention à lui, puis on est mieux de bien commencer. Là, on vient d'un voyage, mais c'est pas le temps de commencer tranquillement. Il faut être alerte, il faut protéger ce gars-là. Puis Dobesh, je pense, arrivait dans le vestiaire déjà avec une très, très bonne réputation. Là, je sais pas si tu te souviens le match durant lequel il avait gardé le filet dans le calendrier préparatoire. Là, Absolument. Il avait été fumant devant le filet.
Ouais.
Les gars notent ces affaires-là, puis ils savaient qui arrivait dans le vestiaire pour l'équipe. Fait que non, j'ai trouvé que le timing, le positionnement était très, très bon. Puis d'ailleurs, tu sais, le Canadien n'a pas accordé beaucoup de chances de marquer samedi, mais hier, Samuel Montembeault, le Canadien ne remporte pas ce match-là si Samuel Montembeault n'est pas devant le filet. Là, il a fait face à 15 chances de marquer de qualité. Brendan Hagel est arrivé seul devant lui trois fois, je pense, devant le match. Là, si je regarde mes notes, Braden Point a eu des bonnes chances de marquer. Montembeault fait les gros arrêts quand ça comptait. En début de match, notamment, en première période, il a été très, très bon. Fait que le timing a été bon. Puis encore là, même dans cette rencontre-là, défensivement, on a vu des bijoux. Le Canadien a géré la troisième période comme une équipe qui avait beaucoup de vécu, accordé juste une chance de marquer en troisième période, en désavantage numérique. Quand le Lightning a obtenu l'avantage numérique en troisième période, là, c'était presque poétique de voir comment les joueurs du Canadien se concentraient pour isoler Kucherov, pour pas qu'il reçoive la rondelle, pour enlever le plus de chances possible au Lightning de marquer sur ces avantages numériques-là. Puis
ouais.
le désavantage numérique a été parfait durant la fin de semaine. Fait qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses. Puis moi, je pense que la planche de salut du Canadien pour connaître une saison honorable, c'est de continuer à bien jouer défensivement comme ça. Il y a vraiment beaucoup de progrès donc qui ont été faits, là, comme je disais, dans le dernier mois et demi.
Non, et ça fait du bien de voir ça, Martin. On en a vu des matchs pas trop loin l'un de l'autre là, au Centre Bell cette saison, des 7-1 contre Seattle, des déconfitures de la sorte, puis on dirait que le Canadien n'est plus parti. Puis là, regarde, le toucher du bois, pour en vivre des matchs comme ça, on a appris de ces déconfitures, puis on joue de façon pas mal plus responsable. Et d'ailleurs, c'est une tendance, là, je faisais un petit lien, bien sûr, avec toi en ouverture de chronique, Martin, mais le Canadien, depuis qu'on a un alignement complet, là, depuis que Martin Saint-Louis peut compter sur ses troupes complètes, ça va très bien.
Oui, puis c'est quelque chose que je répétais souvent en début de saison. Tu sais, les critiques ont commencé. Martin Saint-Louis n'avait pas vécu ça depuis qu'il est arrivé à Montréal. Il a été beaucoup critiqué dans les premières semaines du calendrier.
Il y a eu l'ovation monstre à l'ouverture de la saison. Et après ça, ça s'est vraiment gâté dans les semaines qui ont suivi.
Oui, puis tu sais, l'équipe allait très mal, il faut le dire. Là, l'équipe a joué, pourquoi, 350 durant le premier mois de la saison. Quand tu gagnes un match sur 3, sur 4, c'est difficile de recevoir des éloges à Montréal. mais c'est ça, Martin Saint-Louis, c'était un entraîneur jusqu'au 3 décembre qui avait jamais dirigé son alignement complet en 2 ans et demi là, à Montréal. Ça, c'était quand même surréaliste, là. Le Canadien a été frappé par des vagues de blessures sans précédent, puis c'était toujours du rapiessage, puis toujours des alignements incomplets. Mais depuis que la formation est complète, depuis que Patrick Laine est là, qui a donné un peu de profondeur au sein du top 6, puis qui a amélioré l'avantage numérique, c'est une fiche de 8-4. Là, le Canadien est 11e dans la Ligue nationale. On fonctionne au rythme d'une saison de plus que 100 points. C'est quand même quelque chose. Ça, c'est pas arrivé la semaine passée. On parle d'un mois complet. Puis depuis qu'Alexandre Carrier est arrivé en défense, on a coupé instantanément un demi-but par match accordé. Là. Puis un joueur n'est pas capable d'avoir cet impact-là, mais quand c'est une pièce manquante, un joueur peut avoir un joueur peut pas tout faire tout seul, mais quand c'est une pièce manquante pour stabiliser ta défense, Caden Goulet a été admirable là, de pouvoir jouer sur son côté opposé pendant aussi longtemps, puis de garder la tête hors de l'eau. Mais ça complique tous les jeux, ça te rend vulnérable à te faire frapper, ça te rend vulnérable à commettre des revirements. Puis là, on voit que les trois paires sont à l'aise, les trois paires fonctionnent ensemble, les trois paires sont stables, sont constantes. Puis quand tu coupes un demi-but par match, Là, l'échantillon est mince. Là, Carrier est là depuis le 20 décembre, mais c'est quand même le Canadien est sixième en défense dans la Ligue nationale à 2,2 buts par match. Fait que si cette lancée-là continue, tes chances de gagner quand tu accordes deux buts et moins par match dans la Ligue nationale sont très, très, très élevées. Fait que ça va quand même bien. Là.
Non, certainement. Et j'avais été. Comment je peux dire? Il y a plusieurs gens qui me trouvaient très enthousiaste, Martin, à avoir qualifié cet échange-là d'un vol de Kent Hughes. Là. Et moi, j'avais vu jouer Carrier à plusieurs occasions. Et pour avoir discuté avec lui également à plusieurs occasions, j'étais très heureux de voir son arrivée avec le Canadien. Et honnêtement, je ne crois plus encore en Justin Barron. Donc pour moi, d'aller chercher un défenseur top 4 contre celui qui jouait le rôle de 8e dans l'organisation, bien qu'il est encore jeune, Justin Barron, pour moi, c'est et à date, je veux dire, l'échantillon qui est encore mince donne raison. C'est un vol de Kent Hughes.
Absolument. Moi, je comprends pas encore pourquoi les Prédateurs de Nashville ont fait cette transaction-là. Tu sais, Carrier, son seul défaut, c'est que c'est pas un défenseur imposant physiquement, mais c'est un gars extrêmement efficace. C'est un vrai professionnel. Il y a plus que 250 matchs dans les ligues mineures de fait avant d'arriver dans la Ligue nationale. C'est un gars intense. C'est un gars qui a une bonne tête de hockey. C'est un gars qui se présente à tous les soirs. C'est un ajout incroyable pour le Canadien à ce stade de développement de l'équipe. T'sais, il y a des jeunes qui sont à Laval présentement qui sont pas prêts à assumer ce genre de rôle-là. Puis tu sais, quand tu as toujours un trou à boucher en défense, tu peux pas survivre, tu peux pas être efficace dans la Ligue nationale de hockey. Là. Fait que c'est une très, très bonne transaction. Puis, si ma mémoire est bonne, c'est un client de l'ancienne agence de Kent Hughes aussi. Là,
absolument, contexte, oui.
Il savait ce qu'il allait chercher. Fait que, coup de chapeau, il faut lui donner ça. Toutes les transactions, on a réparé une mauvaise transaction. Tu sais, Barron n'a pas, c'est pas révélé comme on pensait qu'il allait le faire au sein de l'alignement, il s'est pas développé. On pensait avoir réduit le risque en allant chercher un gars qui avait déjà un petit peu de métier, mais on a corrigé une mauvaise transaction par une très bonne transaction.
Exactement, tout à fait. On finit par le dire, pardon. C'est quand même lundi matin. Martin, on doit prendre les prochaines minutes. On pourrait continuer de parler du Canadien, du quatrième trio, tout ça, mais je veux absolument avoir ton avis sur la tenue d'équipe Canada Junior présentement, qui ont connu, contrairement aux Canadiens, là, qui ont connu un week-end difficile. Oui, ça a été une victoire hier contre l'Allemagne, mais ça n'a pas convaincu personne hier, là.
Non, écoute, si, tu sais, moi j'ai été admiratif des Lettons là, quand ils ont remporté le match contre le Canada l'autre soir. Tu sais, c'était un grand moment pour leur programme de hockey.
D'ailleurs, je dois te dire, nous recevons l'entraîneur-chef de la Lettonie à 7h45. Notre ami Bob Hartley nous a dit, écoute, je vais venir vous parler à 7h45, puis je vais amener l'entraîneur-chef de la Lettonie avec moi. Artis sera avec nous, donc manquez pas ça dès 7h45. Pardon, je me permettais une petite plug.
Ben écoute, c'est parfait, mais tu sais, on s'entend, c'est pas normal qu'un pays où il y a 3400 joueurs de hockey, là, tu sais, c'est la taille de 2-3 associations de hockey mineur dans les Basses-Laurentides, dans le coin où j'habite, là. Fait que c'est pas normal qu'une nation comme celle-là tienne tête au Canada dans un match. C'est pas normal que le Canada batte difficilement l'Allemagne dans un match du championnat mondial. Et ça a suite du tournoi. J'ai très, très hâte de voir le match contre les Américains demain. Mais si on regarde la composition de l'alignement, c'est arrivé souvent dans l'histoire au cours des années que le Canada pêche par complexe, par, je sais pas, sentiment de supériorité.
Excès de confiance, oui, c'est ça.
Excès de confiance, des fois, en concoctant des alignements très, très jeunes. Le championnat mondial junior, c'est un tournoi de joueurs de 19 ans. Puis moi, je m'excuse, là, mais peu importe le talent, Il y a une grosse différence entre un joueur de 17 ans et un joueur de 19 ans dans un tournoi comme celui-là, et même entre un joueur de 18 ans et un joueur de 19 ans. Et là, tu as 9 joueurs qui sont pas des joueurs de 19 ans dans l'équipe. Tu as presque la moitié de l'équipe qui ont 18 ans et moins. Tu as 3 joueurs de 17 ans. Tu as un gardien de but. Il y avait Matthew Schaefer en défense qui avait 17 ans. Puis tu as McKenna aussi qui est extrêmement jeune. Et normalement, en tout cas, ma perception, ma conception de la compétition sur la scène mondiale, c'est que quand tu fais entrer des joueurs qui sont moins âgés dans l'alignement, ça devrait être à la vie, à la mort, là. Ça devrait être parce qu'ils ont arraché le poste d'un joueur de 17 ans, de 19 ans. Ils lui ont arraché le poste parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient nettement supérieurs. Puis, quand tu les prends dans ton équipe, ça devrait être pour dire, écoute, ces gars-là vont remplir des rôles secondaire parce qu'ils sont plus jeunes, puis on mettra pas de pression sur eux. S'ils prennent leur envol, ils prennent leur envol, mais nos plus vieux joueurs vont prendre la relève. Puis là, tu regardes la façon dont cet alignement-là est composé. Juste la sélection des joueurs pour le camp d'entraînement était critiquée parce qu'il y avait des joueurs de grande qualité qui avaient été laissés de côté. Moi, tu sais, Carter Yakemchuk, le jeune défenseur qui appartient au sénateur d'Ottawa, là, on l'a vu, calendrier préparatoire de la Ligue nationale.
Tout un lancé.
Jouer contre des gars de la Ligue nationale, puis je me disais, wow, quel joueur incroyable le Canada va avoir au championnat mondial junior. Il n'a même pas été dans le portrait. Il n'a même pas été
On avait la chance même de l'amener et d'amener Zane Parekh, qui a été choisi également top 10 dans l'encamp de cette année. Non.
Exactement. Fait qu'on a fait une sélection, on a mis du talent de côté pour opter plus pour de la combativité. OK, c'est un choix que tu fais, mais encore là, une fois que tu choisis ces joueurs-là, il faut que tu les utilises de façon optimale, là, de la même façon qu'ils connaissent du succès dans les rangs juniors. Puis Dave Cameron est très critiqué pour ça. Notamment, t'as 3 gars des Knights de London qui ont beaucoup de succès. Dickinson, Bunk, l'attaquant qui appartient aux Maple Leafs de Toronto.
Easton Cowan.
Cowan, qui ont beaucoup de succès en avantage numérique. On les a réunis pour la première fois en avantage numérique juste dans le match d'hier. T'as Oliver Bunk qui a été choisi, qui a commencé le tournoi comme quart arrière de l'avantage numérique alors qu'il joue pas ce rôle-là avec son équipe junior, avec sa propre équipe junior. L'équipe est indisciplinée. Ça part de tous les côtés. Puis c'est très difficile avec l'équipe Canada junior quand ça part tout croche de redresser ça parce que tous les joueurs sont des petites futures PME, ils ont leur agent, ils ont leur famille, ils ont un paquet de gens qui leur parlent à voix basse dans l'oreille entre les matchs et tout ça. Et il y a les critiques dans les médias, il y a la pression qui monte parce qu'on accorde une attention démesurée par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde là, à ce tournoi-là. Fait que quand ça part crush, c'est très, très, très difficile de redresser la barque. Fait que j'ai très hâte de voir comment Dave Cameron va être capable de corriger ça.
Il va falloir que ça se fasse rapidement parce que tu l'as dit, c'est les États-Unis demain et de surcroît, les États-Unis viennent de perdre contre la Finlande. Donc, eux autres auront certainement une petite dent et voudront donner tout ce qu'ils ont contre le Canada. Martin, c'est beaucoup trop court. Faudrait se donner 45 minutes pour parler chaque matin. C'est fascinant de t'entendre parler de tous ces sujets-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra reprendre ça demain à la même heure.
Reprends-tu demain? OK, j'avais pas dans mon horaire, j'avais pas de présence avec vous autres dans mon horaire demain, mais si tu me dis que je suis là, je vais être là.
Si tu peux et si tu veux, c'est certain que nous autres, on te prend. Sinon, si t'avais pas ça dans ton horaire, c'est correct, mais on peut se parler durant la journée.
OK, non, mais écoute, moi, quand le patron m'a demandé mes disponibilités durant le temps des fêtes, il m'a donné une liste de dates pour lesquelles il avait besoin de moi, puis j'ai dit oui, mais la date de demain n'était pas là, mais si tu me dis que vous êtes là puis que vous avez besoin de moi, je vais être là, mon gars.
On a toujours besoin de toi, Martin, puis m'a appelé le patron, là, il m'en doit. Salut, Martin, bonne journée.
C'est beau, bonne émission, bye-bye.
Merci, bye-bye.